Vous êtes sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Nous voilà bien. Je vous espère en forme ce matin, prêt à profiter au mieux de votre week-end dans ces temps particuliers et de vos programmes d'RTL bien sûr. De 9h15 à 10h chaque samedi, nous nous transformons en consommateurs avertis grâce aux conseils de nos invités et c'est parti pour le sommaire. L'appli WhatsApp a créé la polémique en voulant partager les données de ses utilisateurs avec Facebook. Alors, peut-on protéger nos données personnelles sur les réseaux sociaux? Armelle Lévy, journaliste au service éco et conso d'RTL, nous aide à mieux comprendre les enjeux de la confidentialité. C'est le vêtement incontournable que nous avons tous dans nos armoires. Un jean de qualité est-il forcément cher? Clémence Gaillard, cofondatrice de La Malle Française, service de shopping personnalisé en ligne, nous donne ses bons conseils. Cette entrée traditionnelle nous replonge en enfance. Comment préparer une bonne terrine maison? Sonia Esgulian nous révèle ses secrets de cuisinière. On veut bien donner, mais pas tout quand même. Bonjour Armelle Lévy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en ce samedi matin et d'avoir quitté pour nous rejoindre le service éco et conso d'RTL. Nos données sur les réseaux sociaux, de quoi parle-t-on? Ça correspond à quoi en réalité?
Eh bien, cela peut être ce que l'on poste, les différents messages que l'on émet et surtout à qui on les émet. Avec qui vous êtes amis sur Facebook, qui vous suivez sur Twitter, avec qui vous êtes connecté sur LinkedIn, TikTok, Pinterest ou Instagram. Quelle organisation, quelle marque, quel produit, quelle personne vous suivez et vous aimez, tous ces éléments-là vont permettre de définir votre profil vis-à-vis du réseau social.
Bon, en fait, c'est tout, quoi. Quand on a un compte sur un réseau social ou une messagerie, à quoi les gérants et les équipes ont-ils accès en réalité?
Alors, le gérant d'une plateforme a évidemment accès à tout ce que vous postez publiquement et à qui vous communiquez. Mais après, la grande question, c'est est-ce qu'il se donne le droit de le regarder ou pas? Et est-ce qu'il le regarde vraiment ou pas? Et ça dépend de chaque plateforme. C'est elle qui définit dans ses conditions générales d'utilisation ce qu'elle va regarder ou pas. La plupart du temps, ce n'est pas le contenu de vos messages qu'elle va regarder. Non, ce qui l'intéresse, c'est de savoir à qui vous les envoyez et ce que vous aimez.
Alors pourquoi de données? Est-ce qu'elles intéressent tant les sites et les applications?
Alors c'est quoi le nerf de la guerre, Flavie?
Bon, c'est l'argent comme
voilà,
d'habitude.
Voilà, c'est l'argent. Parce qu'à un moment donné, quand vous faites un système, que vous soyez WhatsApp ou les autres, il faut bien qu'il y ait des gens pour faire l'application, pour faire fonctionner les serveurs derrière. Il faut que ça rapporte. Et donc, soit vous êtes un modèle économique d'abonnement payant pour utiliser le service, soit vous êtes sur un modèle économique de donation. C'est le modèle de Signal qui repose sur des dons de personnes bienveillantes. Soit vous êtes sur un modèle économique comme Facebook qui consiste à étudier votre profil pour faire de la publicité ciblée.
Mais qu'est-ce qu'ils en font concrètement des données récoltées sur ma vie privée?
Alors, il y a un modèle très simple qui n'est pas celui de Facebook, mais sur des sites internet et qui consiste à enregistrer vos données personnelles, nom, numéro de téléphone, centre d'intérêt et à les revendre telles quelles. Et ça, ce sont des fichiers qui se revendent quelques milliers d'euros, voire quelques dizaines de milliers d'euros sans problème à des entreprises qui vont ensuite vous contacter. Après, vous avez l'approche d'un Google ou d'un Facebook qui consiste à analyser qui vous êtes pour derrière, quand vous allez aller sur leur site, vous mettre des publicités qui sont le plus adaptées pour faire en sorte que vous cliquez davantage. Et comme ce sont des publicités plus efficaces, adaptées à votre profil, ils vont revendre ces publicités plus chères.
Mais qu'est-ce qu'elle dit la loi? Parce qu'elle n'est pas la même en Europe que dans les autres pays. Est-ce qu'elle est respectée au moins?
Alors, la réglementation européenne est plus protectrice en termes de transparence. Le principe de base, c'est l'opt-in, le consentement éclairé. Avant qu'elle puisse faire quelque chose avec vos données personnelles, l'entreprise doit vous expliquer clairement et simplement ce qu'elle va faire et il faut que vous soyez d'accord avant qu'elle ne le fasse. Elle n'a pas le droit d'exploiter des données sensibles, les sujets relatifs à la santé, aux orientations sexuelles, les sujets politiques, religieux. Par défaut, c'est interdit. Il faut des autorisations spécifiques. Donc, depuis 3 ans, une entreprise qui ne respecte pas le RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données, peut être sanctionnée par les régulateurs européens. Ils peuvent saisir jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial des entreprises. Et les sanctions commencent à pleuvoir. La CNIL, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés en France, vient d'infliger une amende record de 100 millions d'euros à Google et 35 millions d'euros à Amazon le mois dernier pour avoir déposé des traceurs publicitaires sur nos ordinateurs et smartphones, des cookies, sans nous avoir demandé notre avis et sans nous avoir dit ce qu'ils allaient en faire. En fait, ils enregistraient notre historique de navigation, nos paniers d'achat, même pas validés, pour nous renvoyer de la pub correspondant à nos envies ou nos besoins du moment.
Mais est-ce qu'on est suffisamment informé du traitement de nos données? En fait, est-ce qu'on a vraiment conscience de l'enjeu?
Alors, suffisamment informé, oui, parce qu'on vous demande de cliquer pour accepter.
Ouais, d'accord.
Mais est-ce que c'est clair et simple? Non.
Bah non.
Non, il faut lire les conditions générales alambiquées, tout est fait pour que vous n'ayez pas envie de les lire d'ailleurs. Et si vous ne cliquez pas sur oui, vous savez déjà que votre lecture sera longue et douloureuse. Mmh. Et si vous dites non, au final, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser le service. Comme WhatsApp, qui maintenant a fait sauter son bouton « Je refuse les nouvelles conditions générales » en disant « Soit vous acceptez, soit on supprime votre compte ».
Ah bah alors justement, parlons-en, la messagerie WhatsApp, elle a créé la polémique là il y a quelques jours en demandant à ses utilisateurs d'accepter de nouvelles conditions. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement et qu'est-ce que ça implique? Parce que moi j'ai cliqué. Hein.
Eh bien WhatsApp a demandé à ses 2 milliards d'utilisateurs d'accepter les nouvelles conditions avant le 8 février, mais c'est finalement décalé au 15 mai face au tollé. Il y a eu une levée de bouclier parce que la messagerie va maintenant partager davantage de données avec sa maison mère Facebook qu'il a rachetée en 2014.
Et là où vous avez raison, effectivement, c'est que moi j'ai cliqué d'office en me disant « Bon ben voilà, sinon il faut que j'utilise ma messagerie, ça va prendre trop de temps de lire toutes les données, donc j'ai accepté. Oui. » Donc en fait, j'ai fait une erreur. Si on a un compte Facebook et un compte WhatsApp, Mark Zuckerberg, là, il les a déjà nos infos, non? Puisqu'on parle de la même maison.
Mais oui, si vous racontez déjà toute votre vie sur Facebook et que vous utilisez sa messagerie Messenger qui collecte déjà vos données, pour parler à plein d'autres amis et envoyer des photos et vidéos, vous ne risquez pas grand-chose de plus.
Mais alors, qu'est-ce qu'ils nous veulent de plus avec WhatsApp? Ils veulent lire nos messages?
Non. Ils ne veulent pas lire ou diffuser vos discussions privées sur votre prochaine balade entre amis ou dernière photo de famille. Ce n'est pas le contenu des messages qui les intéresse. L'application souhaite partager votre numéro de téléphone, votre adresse email et vos transactions pour permettre aux annonceurs de vous contacter directement sur WhatsApp dans le but de vous vendre leurs produits ou de vous proposer un service après-vente. Par exemple, vous n'avez pas finalisé votre panier d'achat sur votre smartphone, l'entreprise pourra vous envoyer un message WhatsApp pour vous rappeler que votre panier vous attend, sortez votre carte bancaire. Ou si vous avez un souci avec un produit, elle vous contactera directement sur WhatsApp pour un remboursement, comme c'est déjà le cas en Inde. Facebook pourrait alors gagner de l'argent grâce à WhatsApp. Mais le risque à terme, c'est aussi d'avoir de la publicité ciblée. Par exemple, si vous discutez avec un groupe d'amateurs de cyclisme sur WhatsApp, vous pourrez recevoir des pubs de vélos sur Facebook. Donc, un conseil. Si le principe vous gêne et que vous voulez quitter WhatsApp, il ne suffit pas de supprimer l'application sur le téléphone. Vous devez aller désactiver votre compte et supprimer toutes vos données dans leur application. Mais vous perdrez alors tout l'historique de vos messages. C'est le jeu.
Voilà, c'est ça. En fait, il faut vraiment aller à la racine. On va se retrouver dans un instant, hein, Armel Lévy, parce qu'il y a de nombreux utilisateurs qui ont quitté WhatsApp pour rejoindre d'autres messageries. D'accord, mais quels sont les biais, quelles sont les alternatives? Vous nous le direz. On va se retrouver dans un instant parce que Armel Lévy, on a encore des questions à vous poser. Il y a plein d'utilisateurs qui veulent quitter WhatsApp mais qui ne savent pas où aller. Vous allez leur répondre dans un instant. Et puis on parlera du bon vieux jean. Vous savez, nos pantalons là. Est-ce qu'un bon jean, c'est forcément un jean cher? Et puis Sonia Esguignon viendra exciter nos papilles pour nous parler des terrines.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Merci d'être avec nous pour Nous Voilà Bien. On est ensemble jusqu'à 10h. On va parler des jeans dans un instant. On va parler des terrines. Mais pour l'heure, nous sommes avec Armel Lévy pour parler de nos données personnelles sur les réseaux sociaux.
Je suis Kevin Razi et aujourd'hui, nous allons parler des données que vous transmettez au travers des Permission App. Mais qui regarde vraiment ce qu'on autorise?
J'ai imprimé le contrat d'utilisation de Twitter. Alors, je ne vous cache pas que ça n'a pas été l'action la plus écolo de ma carrière. Parce que ça fait quand même 21 pages.
21 pages? Ils sont sérieux?
Ils sont sérieux sur les réseaux sociaux? Non mais sans blague. Alors Armel Lévy, merci d'être avec nous jusqu'à 10h ce matin pour nous parler de WhatsApp et compagnie. Justement, à propos de WhatsApp, vous nous avez expliqué qu'il ne faut pas simplement supprimer l'application de notre téléphone si on veut le quitter, mais qu'on doit aller désactiver notre compte et nos données dans l'application. Et il y a de nombreux utilisateurs qui l'ont quitté pour rejoindre d'autres messageries. Quelles sont les alternatives? On nous parle de Signal et d'autres. Vous pouvez nous expliquer un petit peu?
Oui, alors pour les messageries instantanées, il faut que les personnes puissent se parler ensemble. Donc, vous avez des serveurs centraux qui vont relier les utilisateurs entre eux. Pour Signal, comme pour WhatsApp, on est dans une logique où le message est chiffré de bout en bout entre chaque téléphone. Il y a des serveurs au milieu qui transfèrent l'information, mais qui n'ont pas accès à toute l'information. Les messages ne sont pas véritablement accessibles. D'accord. Le plus, c'est que Signal s'engage à garder le moins d'informations publiques sur qui parle avec qui et à qui correspond chaque numéro téléphone. Elle est plus sécurisée et elle est recommandée par la Commission européenne. Il y a aussi d'autres messageries comme le russe Telegram. Alors eux, ils disent que tout est confidentiel, mais c'est très peu transparent. Les conversations de groupe ne sont pas chiffrées au départ, c'est à vous de l'activer. Mais on ne sait pas trop, hein, c'est à vous de faire confiance. En revanche, Cocorico, il existe une messagerie instantanée française qui, elle, repose sur un modèle où il n'y a plus de serveurs centraux. Donc, pour la confidentialité, c'est ce qu'il y a de plus sûr, ce qu'on peut faire de mieux. Cette messagerie instantanée s'appelle Olvid.
Oula,
pas Covid.
C'est bien ça.
Ce qu'elle a de plus, c'est que contrairement à WhatsApp ou Signal qui vont importer tout votre carnet d'adresses dans leur serveur et qui savent à qui vous parlez, là, ils n'ont pas de serveur, donc c'est à vous d'ajouter à chaque fois à qui vous voulez parler. Résultat, en termes de sécurité des messages, ils ne savent pas ce que vous écrivez ni qui parle à qui. C'est donc plus fiable et c'est français.
Les données Facebook, Instagram, LinkedIn et compagnie de 800 000 Français, elles ont été compromises dans une fuite en Chine. C'était en début de semaine dernière. Qu'est-ce qu'on risque? C'est fréquent, ça?
Alors malheureusement, cela arrive régulièrement. Il y a des sociétés qui font du scrapping en anglais. Elles passent leur journée à scanner les sites internet à la recherche de ce qui est public sur nous. Elles vont recouper les informations pour faire des profils de personnes, par exemple. Vous avez affiché sur les réseaux vos diplômes, vos employeurs, ce que vous aimez. Et ils créent de gigantesques bases de données pour les revendre ensuite. Et là, une société qui faisait ça en Chine a mal sécurisé son serveur où elle stockait les données. Donc des chercheurs ont pu y accéder, ce qui implique que d'autres ont pu le faire aussi et les copier. Alors que risque-t-on? Ça peut faire peur, mais en réalité, ce ne sont pas des infos confidentielles, c'est la somme de ce qu'on a nous-mêmes posté sur Internet.
Mais est-ce qu'on a réellement la possibilité de protéger nos données, Armel?
Alors c'est toujours pareil, hein. C'est Jérôme Billois, spécialiste en cybersécurité chez Wavestone, qui le rappelle, dès que vous mettez quelque chose sur Internet, n'oubliez pas que cela restera toujours stocké quelque part. Internet n'a pas Alzheimer. C'est ma phrase du jour.
Ce sera la punchline.
Voilà. Internet n'a pas de perte de mémoire. Donc, quand vous écrivez sur Internet, il faut toujours avoir à l'esprit que ça peut fuiter, y compris de la part de la personne de l'autre côté du téléphone à qui vous envoyez le message. La question, quand vous utilisez Internet et les réseaux sociaux, c'est ce que je dis là, ce que je fais là, si ça ressort un jour, est-ce que ça m'embête ou pas?
Mais dans ces cas-là, on peut peut-être utiliser les messageries éphémères, non?
Oui, bien sûr, mais c'est le plus gros mensonge du moment, Flavie, sur les réseaux sociaux. On vous dit qu'ils vont disparaître de votre téléphone dès que vous l'aurez lu, mais du moment où le message est envoyé, il y en a une copie quelque part. Et même s'il disparaît du téléphone, il suffit juste de prendre une photo de l'écran pour que le message ne disparaisse jamais. Donc ça, ce sont des balivernes.
Mais alors, comment on fait pour protéger nos données?
On peut toujours refuser telle ou telle promo pour éviter les cookies ou refuser d'écrire sur la dernière plateforme à la mode. Mais on a tendance à donner trop facilement nos informations. Par exemple, quand vous créez un profil, si vous décalez d'un mois votre date d'anniversaire, vous allez recevoir à cette date plein de mails avec plein de promos vous souhaitant un joyeux anniversaire sans avoir jamais contacté ces marques. Donc elles ont bien récupéré vos données quelque part. Donc c'est possible de protéger ces données sur Internet, mais vous devez savoir ce que vous donnez et à qui.
Bon, ça reste compliqué tout ça. On a quand même l'impression que c'est plus fort que nous. Hein. Ça demande un engagement que de refuser, en fait, hein, systématiquement. Mais c'est peut-être bon de le faire. Merci beaucoup, Armel Lévy, de nous avoir éclairé de la sorte. On sera un petit peu plus vigilant, peut-être, à l'avenir grâce à vous. Je rappelle que vous êtes journaliste au service éco et conso d'RTL. Vous aimez bien les jeans, vous, hein, vous
en portez? Oui, j'en mets régulièrement.
Bah, comme nous tous, en fait. Hein, c'est vraiment.
C'est confortable.
Je crois que tout le monde porte des jeans. On va en parler dans un instant avec Clémence Gaillard. Merci, Armel Lévy.
Merci.
Tous les matins je tombe amoureux quand tu te glisses délicatement dans ton jean bleu.
Gauvin Serre, c'est qui nous parle de notre jean bleu, mais il est de plein de couleurs en réalité aujourd'hui. Bonjour Clémence Gaillard.
Bonjour Fabie.
Soyez la bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice de La Malle Française et c'est un service de shopping personnalisé en ligne dédié aux femmes. C'est vrai, je le disais il y a un instant, en fait tout le monde porte des jeans, les hommes, les femmes, les petits, les grands. Ils se présentent sous une large déclinaison de styles, de couleurs, il y en a vraiment pour tous les goûts, c'est ça qui fait son succès.
Alors effectivement, le jean, c'est vraiment un intemporel, on le porte à toutes les saisons, il est porté par tout le monde. Et pour preuve, il y a plus de 2 milliards de jeans qui sont vendus par an dans le monde. Donc que ce soit du droit, du slim, du mum, du taille haute, du taille basse, c'est vrai que l'offre est énorme. Mais après, justement, comment se retrouver parmi toute cette offre et comment savoir le jean qui nous correspondra? Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui font appel à notre service de personal shopping pour trouver le jean qui va le mettre en valeur.
Bah oui, parce que c'est ça le but, hein, c'est de faire un beau popotin et des jambes fines, on est bien d'accord. Là, je parle pour les femmes.
D'accord.
Et c'est quoi le dénime, Clémence Gaillard, hein? C'est la même chose?
Alors en fait, le dénime, c'est le tissu, c'est C'est un tissu de coton dont la caractéristique, c'est son tissage en diagonale. Et en fait, c'est ce qui lui confère la résistance à toute épreuve et en particulier aux déchirures. Pour raconter un peu une anecdote, lorsqu'on évoque le denim, c'est vrai qu'on pense souvent immédiatement aux cow-boys américains, mais exactement. En fait, l'origine remonte à bien au-delà de la conquête de l'Ouest. Ça date du 16e siècle en Europe, où tout a commencé. Donc à l'époque, on utilisait le jean dans la ville de Gênes pour fabriquer les voiles des bateaux.
Génial.
Et ensuite, en fait, la ville de Gênes a exporté ce tissu dans toute l'Europe, notamment en Angleterre. Et en fait, c'est de là que vient le mot jean, la prononciation britannique, en fait, de la ville de Gênes.
Mais c'est beau, dis donc, vous nous racontez des belles histoires aujourd'hui.
Mais c'est génial. Mais c'est super. Et en plus, ça a été exporté aussi à Nîmes, donc ville française,
ouais.
Où en fait, les tisserands ont créé une étoffe de coton écru teintée ensuite en indigo et tissée en serge, très serrée et très résistante. Et encore, c'est de là que vient le mot, en fait, de Nîmes, de la ville de Nîmes.
Magnifique. On va se retrouver dans un instant, Clémence Gaillard. Vous allez continuer à nous raconter des petites histoires. Et puis, vous allez nous expliquer comment évaluer la qualité de la matière d'un jean et surtout comment bien le choisir. On se retrouve tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Ah bah nous voilà bien, on apprend plein de choses aujourd'hui sur nos données personnelles, sur les réseaux sociaux grâce à Armelle Lévy. Dans un instant on va manger de la terrine, mais pour l'heure, c'est l'heure du jean. Ceux qui se demandent, mais c'est qui chante sur RTL? C'est Pacifique. Eh oui, ça nous ramène à quelques années. Je parlais du gin, alors pas la boisson, hein, évidemment. D'ailleurs, la semaine dernière, on a parlé des alcools sans alcool, à retrouver en replay sur l'application RTL.fr. Non, aujourd'hui, on parle du gin, le fameux pantalon, le denim. Et c'est Clémence Gaillard qui vient de nous raconter l'histoire du denim. Comment est-ce qu'on peut évaluer la qualité de la matière d'un gin, Clémence Gaillard, vous qui êtes cofondatrice de la Malle Française?
Alors, pour évaluer la qualité du jean, moi, je regarderais trois choses, donc la composition, les finitions et les effets.
D'accord.
Donc d'abord, la composition, en vrai, un bon vrai jean, généralement, c'est une toile à 100% coton. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les fabricants, pour apporter plus de confort aux vêtements, va ajouter un peu d'élastane. On pourra dire que, en fait, si l'élastane représente moins de 1% de la composition globale du jean, on peut dire que le jean ne perdra pas sa forme et qu'il se maintiendra à travers les années. Les finitions, donc on peut favoriser en fait le jean selvedge, donc c'est une toile très serrée et en fait les extrémités sont renforcées par des liserés, et ce qui empêchera aussi de s'effilocher, contrairement au jean non selvedge qui souvent en fait sont moins résistants.
D'accord.
Donc en fait, comment voir concrètement si le jean est un selvedge ou non? Il suffit de faire un ourlet donc au bas du jean, et si on voit un petit liseré rouge en bas, alors c'est une toile selvedge.
D'accord, très bien.
Et enfin, on peut regarder aussi les effets, donc tout ce qui est délavage par exemple, qui sont censés imiter l'usure naturelle du denim. En fait, il faut regarder si ces déchirures, ces usures, ces délavages, qui sont subtils, parfaitement imités, et de préférence sans symétrie entre les deux jambes, alors on pourra dire que c'est un jean de qualité. Et si au contraire, on voit que les délavages sont très artificiels, on pourra dire que c'est plutôt bas de gamme.
Ok, d'accord. On en trouve à tous les prix des jeans, en fait. Qu'est-ce qui explique ces différences? C'est vraiment la qualité du tissu?
Le jean, on en trouve un peu à tous les prix, à partir d'une vingtaine d'euros, et ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines d'euros. C'est forcément dû un peu à la qualité, comme on a évoqué ensemble auparavant, mais c'est aussi lié au free marketing. Donc, par exemple, si le jean, vous le voyez sur telle égérie, sur un spot publicitaire, forcément, ces free marketing vont être portés rapidement sur le prix du jean.
À propos des jeans, en fait, il paraît qu'on les lave trop, c'est vrai ça? Comment ça s'entretient?
Alors, un jean, effectivement, on a tendance à le laver après chaque utilisation, comme tout vêtement. Alors, normalement, en fait, ce qui est conseillé, c'est de le laver après 5 ou 6 fois de portée.
Ah, moi, je fais vachement plus souvent.
En fait, une toile de jean, ça se salit très lentement, ça se salit pas forcément. Et en plus, plus on va le laver et plus, en fait, on va détériorer le jean.
Alors justement, ça peut se garder longtemps un jean ?
Alors si un jean, on le choisit de qualité et que effectivement on respecte cet entretien, on peut le garder très longtemps, on peut même lui donner une seconde vie si on veut.
D'accord. Et dernière question qui nous taraude tous, là, la petite poche là devant, vous voyez la toute petite là, dans laquelle viennent toujours se glisser une petite pièce de centime d'euro, elle sert à quoi celle-là ?
Alors en fait, cette poche, on l'appelle la poche goussée. En fait, c'était les cow-boys et les ouvriers qui s'en servaient. Et comme son nom laisse à deviner, ils rangeaient à l'époque leur montre à gousser. Aujourd'hui, effectivement, elle n'a plus vraiment d'utilité, mais elle peut servir à glisser quelques pièces de monnaie si l'on utilise encore sa monnaie.
Voilà, et bien c'est exactement ce qui se passe pour mon cas. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Clémence Gaillard, je rappelle, La Malle Française, c'est un service de shopping personnalisé en ligne dédié aux femmes. Merci pour tous ces conseils concernant nos jeans, nos dénimes. À bientôt sur RTL, Clémence. Merci.
Au revoir.
Rubrique fait tout toi-même, mais surtout fait des recettes originales. Je voudrais vous proposer aujourd'hui la recette de la terrine d'informaticien aux morilles.
Miam, 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 miam. Mais c'est Sonia Esguillon qui arrive sur cette antenne pour nous parler cuisine. Bonjour Sonia.
Bonjour Flavie.
Bienvenue sur RTL. Merci d'être avec nous. Vous êtes cuisinière, auteure, journaliste. Et dites donc, je me demandais en préparant cette émission, c'est quoi une terrine ? C'est quoi la différence avec le pâté ?
Eh bien, en fait, le pâté, il y a un petit indice, ça vient du mot pâte. Donc, normalement, le pâté, c'est forcément une farce de viande enveloppée dans de la pâte et ensuite cuite soit sur une plaque, soit dans un moule. Et la terrine, alors ça peut se faire dans le plat qui s'appelle une terrine, donc en porcelaine ou en verre type Pyrex. C'est plutôt une farce de viande qui ne dispose pas de pâte. Alors on peut mettre d'autres choses, comme des petites tranches de poitrine fraîches pour protéger par exemple la terrine et faire en sorte qu'elle soit plus moelleuse. Ou on peut mettre de la crépine aussi, ce qui permet de tenir en fait la viande. Mais effectivement, il n'y a pas de pâte. Donc un pâté, c'est forcément quelque chose qui, une farce, qui a une pâte qui entoure complètement la viande.
Oui, donc en fait, parfois on nous vend du pâté qui n'est pas du pâté. On nous vend du pâté qui est de la terrine.
Bah, en fait, c'est comme beaucoup de mots, ces mots entrent dans le langage commun et puis on dit, ah bah tiens, je voudrais bien un petit morceau de pâté rustique ou de pâté de foie.
Alors que c'est de la terrine.
C'est de la terrine, en vrai.
Eh bien voilà, on a déjà appris une chose grâce à vous Sonia Esguillon. On va se retrouver dans un instant car on n'a pas fini d'en parler. À tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Si vous avez du pain, si vous avez des cornichons, bah vous allez dévorer la terrine de Sonia Esguillon. J'ai tous les samedis matins l'impression de me faire engueuler à chaque fois que je vous parle. Sonia Esguillon.
Bah oui, moi aussi, elle me réveille là d'un coup.
Alors Sonia, merci d'être avec nous. Non mais je disais pain et cornichons et terrine, mais pour moi c'est, bah, je sais pas, c'est le week-end quoi. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ah non mais c'est top. Mais oui. Alors justement c'est le week-end, mais on ne réfléchit pas à la terrine le week-end parce que un des secrets de la terrine, c'est d'y penser à mon avis le mardi. Parce que pour avoir une très très bonne terrine, quand on l'a cuite, il faut au moins patienter 2 jours avant de la déguster. Donc on ne se lève pas un samedi matin en se disant tiens, on va faire une petite terrine pour ce soir.
D'accord, donc on y pense à l'avance. La terrine,
oui,
ça se prépare,
ça, c'est
mais ça
vraiment
se conserve en plus.
Un des secrets qui va vraiment tout changer quand on va déguster. Deux jours minimum.
Ok, mais dites-moi, on met ce qu'on veut dans une terrine, on peut faire des terrines à tout, non, il y en a pour tous les goûts.
On peut faire des terrines à tout, on peut faire des terrines... Alors, généralement, une terrine, pour que ça soit bien moelleux, il y a forcément un petit peu de gras. Alors, du bon gras, évidemment, hein, parce que on va choisir, par exemple, de la poitrine fraîche, ou on peut aussi... moi, j'aime bien, par exemple, prendre des viandes comme de l'échine de porc, par exemple, pour utiliser du porc. Mais si on fait du lapin ou du veau, alors, on peut essayer de faire des terrines sans gras du tout. Dans ce cas-là, il va falloir ajouter... Par exemple, moi, une petite astuce, j'ajoute énormément d'oignons et un petit peu de pain. comme quand on fait des boulettes. On peut y arriver. Alors, c'est sûr que c'est un peu moins moelleux qu'une terrine qui aura un peu plus de gras. Alors après, les mélanges, on peut tout mélanger. C'est-à-dire qu'on peut préparer une terrine avec des champignons, on peut préparer une terrine avec des herbes aromatiques. On a vraiment d'immenses possibilités. Et comme vous me connaissez, on a aussi des terrines anti-gaspi. On peut aussi faire des terrines avec une viande qui est déjà cuite. Exemple, vous avez fait un petit rôti le mercredi. Eh bien, avec cette viande que vous allez hacher, vous allez rajouter un tout petit peu de poitrine fraîche, on va rajouter un tout petit peu de farine, un œuf, pour bien lier le tout. Alors là, ce qui est super, c'est par exemple, en ce moment, c'est d'ajouter, moi j'aime bien rajouter des pommes, par exemple, parce que je trouve que ça apporte du moelleux et une petite originalité. Très important, les épices, parce que la terrine, il faut vraiment que ça soit bien relevé. Donc, soit pas mal d'épices, soit des herbes aromatiques. Et en fait, on va cuire, on va mélanger le tout et on va cuire cette terrine dans un plat en porcelaine, en terre cuite, pour pouvoir avoir justement ce côté moelleux et bien, bien amalgamé pour faire des belles tranches qu'on va déguster avec les fameux cornichons.
Et mais alors quand je vous écoute, j'ai l'impression que c'est facile à préparer, alors que moi ça m'impressionne.
Mais qu'est-ce qui pourrait être difficile en fait?
C'est faire cette matière. C'est quoi la base de la terrine?
La base de la terrine, c'est de la viande. Alors comme je vous l'expliquais, vous pouvez avoir différentes viandes. Ensuite, pour lier le tout, on va ajouter par exemple un œuf, un tout petit peu de farine. Par exemple, pour 500 grammes, je vais ajouter une cuillère à soupe pas trop pleine de farine, un œuf. Je vais bien bien mélanger le tout. Et ensuite, quand je vais cuire ma terrine, elle va fonctionner. On peut faire aussi des terrines sans œufs, hein, parce que quand on a bien mélangé les viandes entre elles, elles tiennent en fait. Puisqu'on va les mettre dans une terrine, on va les tasser un petit peu et ça va tout à fait tenir. Si on veut faire une terrine encore plus en forme, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on peut tapisser en fait la terrine avec de fines tranches de poitrine fraîche ou alors avec de la crépine, mettre la farce, tasser un petit peu et recouvrir à nouveau le tout, toute cette farce avec la poitrine fraîche ou la crépine et ensuite on met au four.
D'accord, ok. Bon, en fait, c'est simple. Et on a besoin d'ustensiles spécifiques ou pas? Parce que là, vous nous parlez justement de plats à terrine.
Franchement, si on veut faire dans les règles de l'art, oui, on peut s'acheter une terrine si on en fait souvent. Moi, à la maison, je fais des terrines avec tout. J'ai un petit plat à gratin individuel. On peut déjà faire une terrine. Alors évidemment, elle ne sera pas très haute. On peut utiliser le bocal qui sert à la conserve. Ça, c'est très pratique. Surtout celui où on peut enlever la partie métallique. Parce que ce qui est bien, en fait, pour une terrine, on n'a pas tout à fait parlé de la cuisson. C'est top de poser le plat quand on a mis la farce. On pose le plat au bain-marie, donc dans un autre plat avec de l'eau chaude. Pourquoi ? Parce que ce qu'on veut, c'est avoir une terrine très moelleuse. Et pour avoir une terrine très moelleuse, on va cuire cette terrine au bain-marie. Alors moi, ce que je conseille, c'est commencer la cuisson assez chaud, 220-230 pendant 10-15 minutes. Ça va former une petite couche protectrice sur la terrine. Et ensuite, on baisse le four à 180. Et selon la quantité de viande, on va cuire. Alors ça cuit assez longtemps, une terrine. Hein. On va cuire une heure et demie. Parce qu'il faut qu'on ait bien bien cuit à cœur. Et puis que cette terrine, on puisse la garder quelques jours, la déguster en plusieurs temps.
Ben, j'allais justement vous demander, ça dure combien de temps une terrine?
Une terrine, on peut la garder facilement.
Un apéro, quoi.
Ah oui, alors si on est très gourmand, un apéro, puis on n'en parle plus. On ne se pose même plus la question de la conservation. Mais sinon, je pense que sans aucun problème, une petite semaine au réfrigérateur.
D'accord, et ça se mange systématiquement froid?
Oui, ça se mange froid. Parce que justement, alors on peut après faire des sortes de pâtés pour le coup, chaud, mais la terrine en général, ça se mange froid. D'abord parce que ça se tient. Si on découpait une terrine chaude quand elle sort du four, eh bien, on verrait qu'il y a des petits morceaux qui se détachent. Donc on va la conserver. Alors après, si vous l'avez fabriquée dans un bocal, on peut aussi stériliser le bocal et pour le coup, quand on fait une terrine, on peut en faire une plus grosse quantité et faire 3-4 bocaux d'avance pour les futurs apéritifs. Ouais. Et puis aussi pour faire des cadeaux, par exemple, quand on va chez les copains. Je vous ai préparé une terrine maison et c'est ça, je trouve que c'est assez joli.
Ouais, c'est super sympa. Et dites-moi, la terrine, c'est toujours un apéro ou une entrée?
C'est pas oui. Alors après, pourquoi pas se faire un petit casse-croûte, hein. On peut aussi faire. Mais c'est vrai que souvent, c'est considéré comme un petit apéritif ou une entrée avec une belle salade, des cornichons, des pickles, un peu de moutarde. Voilà, ça peut tout à fait faire une très très belle entrée.
Eh bien, merci beaucoup, Sonia Esgulian.
Merci. Qu'est-ce que c'était toujours intéressant. Un grand plaisir.
Bon, bah, j'arrive ce soir pour l'apéro, hein. Voilà, puisque vous avez
avec
préparé.
Plaisir, voilà. Heureusement, j'en ai préparé une d'avance. Donc,
c'est génial. Je vous embrasse bien fort. Vous savez ce que je vous fais. Des bisous, Sonia Esgulian. Merci beaucoup. Et puis, je rappelle évidemment votre page Instagram et sur laquelle on trouve énormément de choses et de conseils. Je vous embrasse, Sonia. À très bientôt sur RTL. Nous voilà bien si finis pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous les conseils de nos invités en replay sur l'appli RTL. Quant aux recettes, elles vous attendent bien au chaud sur nos réseaux sociaux. Moi, je vous donne rendez-vous lundi dès 14h30 sur RTL pour En effet pour s'entendre, le magazine du partage et de la réflexion. Et la semaine prochaine, 9h15 pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Prenez bien soin de vous. Passez un très bon week-end à l'écoute de votre radio préférée. Je vous embrasse.
Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien.
Salut, c'est Vincent Perrault.
RTL Pop Ciné.
Je vous attends tous les dimanches dès 14h pour RTL Pop Ciné. Des jeux, des interviews, des chansons de films, pour tout savoir de l'actualité cinéma.
RTL Pop Ciné, présenté par Vincent Perrault, dès maintenant en replay sur RTL.fr.